que nous nous assemblons, mais nous le faisons. Et puis nous l'avons entendu à travers des paroles de connaissances, à travers des dons, à travers la parole de Dieu. Bien, il est celui aussi qui nous éclaire, il est celui, quand nous crions à lui, qui nous fait parcourir, même lorsque nous sommes dans le dédale de notre vie, lorsqu'il y a des événements qui nous perturbent, lorsqu'on a l'impression d'être comme dans les ténèbres, il éclaire. Amen. Et ce matin encore, on peut se confier en lui parce que finalement, notre vie se résume à mieux le connaître lui, à mieux savoir qui il est. Et ce matin, j'aimerais lire quelques versets avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 1er. On va lire trois versets sur ce livre des Actes. Parce que, si nous avions été à l'époque de Jésus, à peu près à ce même temps, on aurait vécu quelque chose de très très particulier, hein, puisque ça fait quelques semaines que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et puis il y a une période un petit peu étonnante, et à travers cette période, on va voir ce que Jésus veut nous aider à découvrir, en tout cas de sa personne. Alors c'est dans le livre des Actes, au chapitre 1er, et le verset 1 nous dit ceci: « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. » Alors ce texte nous parle d'une période particulière, bien entendu, dans la vie des disciples de Jésus. J'ai intitulé mon message « En quarantaine avec Jésus ». En quarantaine avec Jésus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le mot quarantaine évoque pour vous, mais il y a des quarantaines sanitaires, on le sait, parfois dans certains ports ou à certaines frontières, on va vous mettre en quarantaine, on va mettre votre animal en quarantaine. C'est une mesure bien sûr de protection pour éviter que certaines choses mauvaises entrent dans le pays, etc., etc. Dans la Bible, le nombre 40 évoque aussi une étape. Ça évoque un changement, ça évoque aussi bien un changement d'un niveau vers un autre, ça évoque un moment d'accomplissement. Vous pensez bien sûr au déluge, 40 jours et 40 nuits, il y a eu 40 jours et 40 nuits. On pense à Moïse, là aussi, sur le mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits également. On pense bien sûr au peuple d'Israël dans le désert, 40 ans dans le désert, et puis Jésus, sa tentation, 40 jours. Et on pourrait dire ce matin que cette quarantaine, c'est une mise à part pour les disciples. C'est un temps là aussi particulier, c'est une sorte d'isolement, cette quarantaine, pour approfondir quoi ? Eh bien, la personne de Jésus, la connaissance de Jésus, de savoir qui il est, de savoir ce qu'il fait. Et puis, n'est-ce pas également ce matin, je le répète, le plus grand défi, apprendre à mieux connaître qui est Jésus. Apprendre à mieux le connaître. Parce que plus on va le connaître, plus on va l'aimer, et plus finalement on va être apte à le suivre, à obéir à sa parole, à sa volonté, à sa voix. Mieux connaître Jésus, c'est le défi. On peut connaître beaucoup de choses sur la Bible, de l'enseignement, des livres, etc., l'histoire, c'est très bien, ça fait partie. Mais la base de notre relation, c'est mieux connaître qui est Jésus. Il y a un chant qui nous dit ceci: « Te ressembler, Jésus ». Et on est en marche, nous savons, pour ressembler Jésus. Alors, on va revenir, je crois qu'on a déjà lu, je ne radote pas, je me souviens, mais on va relire dans Luc 24, versets 33 à 43, ce premier dimanche soir où Jésus va se révéler à ses disciples, et puis à travers trois éléments ici, on va apprendre encore peut-être à mieux connaître qui est Jésus. Luc 24, versets 33 à 43. Luc 24, versets 33 à 43 nous dit ceci: « Ils se levèrent à ce moment-là et retournèrent à Jérusalem. » Il est question des deux disciples d'Emmaüs, on en avait parlé. « Ils dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de pain, de poisson grillé, un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie s'ouvrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance, le pardon des péchés, serait prêché en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors c'est Luc, bien sûr, qui écrit ce livre, hein, qui est devenu un évangile. Et juste pour nous remettre dans le contexte, c'est un médecin. Je dis ça pour ça, ça pourra peut-être nous aider à comprendre quelques éléments de ce passage. On va d'abord parler du corps de Jésus. Le corps de Jésus. C'est Luc le médecin qui nous fait quand même une description dans ce texte qui est au moins quand même étonnante et surprenante. Hein, en tant que scientifique, il est marqué par ce qu'il va constater. Que constate-t-il à ce moment-là ? Que remarque-t-il ? Eh bien, il remarque que Jésus, finalement, va se manifester. Il va apparaître aux onze apôtres. Il est question des autres, il est question peut-être des femmes, il est question aussi d'autres, mais quelques disciples. Et il est dit ici que finalement, dans ce moment, Jésus va se présenter au milieu d'eux, mais d'une manière quand même qui les surprend tous. Alors on imagine une pièce quand même assez sombre, elle est fermée, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de volet, il y a des lampes à huile qui sont là, la lumière quand même n'est pas très très forte, et puis ils partagent, ils parlent, et à un moment donné, Jésus apparaît au milieu d'eux, d'une manière surprenante. Personne ne l'a entendu, personne n'aurait entendu la porte, ou en tout cas frappé à la porte. Personne n'a senti une présence par derrière, dans la pénombre de la pièce. Mais à un moment donné, Jésus se manifeste au milieu d'eux. Et là, la réaction, elle est connue. Hein, c'est la panique à bord, comme sur le lac de Tibériade. Vous vous rappelez, sur le lac de Tibériade, ils croyaient voir un esprit et un fantôme. C'est quand même quelque chose. Et puis, ce n'est pas tout. Hein, face à la frayeur, on l'a lu, les disciples, Jésus va leur montrer ses mains, ses pieds et son côté, et puis il va même demander à manger. Il est question d'un poisson et il est question d'un rayon de miel. Alors que faut-il comprendre ce matin ? Que faut-il déduire, en tout cas pour les disciples à l'époque ? Et pour Luc, le médecin, le scientifique, l'érudit, celui qui a appris un petit peu la médecine, comment Jésus peut-il en même temps ne pas être arrêté par la matière d'une porte, d'un mur, et puis malgré tout manger de la matière au travers d'un poisson et un rayon de miel ? Comment vous expliquez ça ? La seule explication ce matin qu'on a s'appelle la résurrection. C'est la résurrection. C'est ça, un phénomène spirituel qui est incompréhensible techniquement dans nos têtes. Alors, je sais qu'on a tous fait des études de physique poussées, et on nous a dit que finalement, c'est pour ceux qui ont un petit peu d'orgueil, on n'est fait que de vide. Vous vous rappelez vos études avec les atomes, etc. Et on vous dit que finalement, c'est parce que les atomes, ils bougent beaucoup, les électrons, etc. Hein, vous avez l'impression d'avoir de la matière, mais en fait, vous êtes que du vide. Il y a un scientifique qui nous dit qu'on est composé de vide à 99,999%. C'est vraiment extraordinaire, hein, hein. Ça vous fait... En tout cas, c'est un scientifique qui nous dit ça. Donc si, de temps en temps, on se prend un petit peu au sérieux, on se dit finalement, ben, on n'est pas grand-chose. Hein. Bien. Mais, à part ça, eh bien, qu'est-ce que nous dit ce matin ce corps ressuscité? Qu'est-ce que la résurrection, ce matin, nous rappelle concernant Jésus, hein, ce qu'il est? Il est ressuscité. Eh bien, la première pensée, c'est dans Romains 1, 3, verset 4. Hein, on s'en souvient de ce verset. Voilà ce qu'il est dit. « En ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Sa résurrection, ce matin, elle souligne, elle confirme sa divinité. Amen. Jésus est bien le Fils unique du Dieu vivant. Il est le Fils unique du Dieu vivant, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je me faisais quand même cette réflexion, notons quand même ce matin, que les trois grandes religions monothéistes, eh bien, ont une théologie qui altère quand même cette réalité. Par exemple, pour l'islam, c'est clair, Dieu n'a pas de fils. Ça, c'est très clair. Dieu n'a pas de fils. OK. Pour le judaïsme, il y a bien un fils de Dieu. On est bien d'accord. Mais le Messie n'est pas encore venu. Le fils de Dieu n'est pas encore venu. On l'attend. Et on altère, là aussi, cette réalité. Christ est bien le fils de Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Et le judaïsme altère cette réalité. Et puis nos braves, j'allais dire frères et sœurs, parce que je crois qu'il y a aussi des frères et sœurs catholiques, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je parle de la théologie catholique, Jésus est bien le fils de Dieu. Là, on est bien d'accord. Mais on lui adjoint quand même Marie en tant que mère de Dieu. Et on altère également. Eh bien, cette réalité de Christ, le Fils de Dieu. Et nos trois grandes religions monothéistes ont un petit problème quand même avec cette déclaration, avec la résurrection. Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors ce matin, ça veut dire quoi pour nous? Et on l'a entendu, ça veut dire « je vis par la foi au Fils de Dieu », Galates 2:20. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on vit, hein, puisque finalement on s'aperçoit qu'on est beaucoup fait de vide. Et ce vide, on peut le ressentir de manière physique, spirituelle, morale, psychologique. Ce vide, on le ressent. Mais si je vis ce matin, ce n'est pas par le vide qui est en moi. Au contraire, c'est par la présence de Jésus qui est rassurante en moi. Amen. Et qui me rassure. Dans Éphésiens 4:13, il est dit ceci, « Nous sommes parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Connaître Jésus nous unit. Connaître le Fils de Dieu nous réunit. Et puis, un beau verset, 1 Jean 4,15, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Amen. L'importance de la résurrection. Il est vivant. Et ce matin, nous confessons qu'il est ressuscité, qu'il est bien le Fils de Dieu. Et si on le confesse, eh bien Dieu demeure en nous et nous, nous demeurons en lui. Quelle grâce, quelle grâce. Et pour nous qui sommes venus, peut-être là aussi, fatigués, découragés dans un moment difficile, eh bien nous confessons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Sa résurrection, deuxième point pour nous, eh bien, c'est la garantie qu'il peut, qu'il veut se révéler à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas un problème pour Jésus. C'est pas. Mais j'ai appris que sous l'Élysée, il y a un bunker de commandement qui est à moins 100 mètres en dessous de l'Élysée. C'est extraordinaire quand même. Hein, il y en a un au moins qui sera en sécurité pendant qu'il y a une bombe atomique qui pourrait nous tomber sur la tête. Bon, après, que fera-t-il? Ça, c'est un autre débat. Hein, mais en tout cas, on peut le comprendre. Mais j'oserais dire que même là, à moins 100 mètres, si un jour Jésus veut se révéler à M. Macron dans cet abri anti-atomique, il le fera. Rien ne pourra l'arrêter. Il se révèle à qui il veut. 1 Corinthiens 15, 5, 6, hein, vous avez ce texte où il est dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Extraordinaire. Et puis, dans Actes 7,55, c'est Étienne. Il est dit que quand Étienne va être lapidé, il voit le ciel ouvert et Jésus debout qui se révèle à Étienne. Quelle révélation! Mais Jésus se révèle aussi à des non-croyants. Et nous qui prions pour des bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, Jésus peut se révéler aussi à eux. On a souvent ces témoignages lors des pèlerinages à la Mecque, eh bien que Jésus se révèle à des musulmans. Et il le fait. Et là, dans Acte 9, versets 3 à 7, il va se révéler à qui ? À un meurtrier qui a du sang sur les mains, du sang chrétien, à un certain Saul de Tarse. Et il va se révéler à Saul de Tarse. Je le dis toujours, heureusement qu'il y a cette révélation de Jésus à Saul de Tarse qui m'aide, moi, à prier pour les persécuteurs de nos frères et sœurs. Sans cela, je pense que j'aurais toute une partie de ma prière qui serait mise de côté. Comment pouvoir prier pour des persécuteurs de nos frères et sœurs, sinon que parce que Jésus bien, s'est révélé aussi à Saul de Tarse et qui se révèle encore à des bien-aimés, là aussi, dans ce domaine. En tout cas, ce matin, bien, Jésus demeure omniscient, omnipotent, omniprésent. Et il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Et nous qui portons sur nos cœurs ce matin bien, des bien-aimés, des membres de nos familles, des amis, peut-être des ennemis aussi. Alors, ce n'est pas qu'on veut leur faire la guerre, bien entendu, mais c'est peut-être parfois bien, des hommes, des femmes, notre entourage qui nous en veulent, qui nous veulent du mal. Eh bien, Jésus est capable de se révéler aussi à eux. Amen. Extraordinaire. Comment le Seigneur se manifeste, la puissance de la résurrection. Et puis la grande nouvelle pour nous ce matin, sa résurrection, c'est la garantie pour ses disciples de vivre avec lui dans l'éternité. On ne va pas relire tous les textes, mais Jean 14 est un des plus complets, Romains 6 également, versets 4 à 9, qui nous rappelle cette belle réalité, parce que si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine déjà, ça ne sert à rien, et puis si lui n'est pas ressuscité, eh bien, on ne ressuscitera pas non plus. Mais désormais, pour nous, c'est un gage, c'est une garantie, c'est une promesse. Nous allons vivre avec lui dans l'éternité avec un corps semblable à lui. Et là-haut, on aura l'explication de ce corps mystérieux de Jésus, où nous connaîtrons comme il connaît, où nous serons comme lui, semblable à lui, dans un corps glorifié, dans un corps incorruptible. Quelle grâce ce matin. Et ça, eh bien, ce sont les réalités de sa résurrection. Au travers de ce corps que Jésus va montrer, eh bien, c'est bien moi. Et Jésus, ce matin, eh bien, nous révèle que par sa résurrection, nous sommes assurés de cette réalité éternelle dans sa présence. Amen. Et puis, non seulement il y a le corps de Jésus, mais d'une manière spécifique, ici, il y a les mains, les pieds et le côté de Jésus. C'est le deuxième point pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur qui est Jésus à travers ses mains, ses pieds et son côté ? Alors là, j'en parlais brièvement dernièrement, mais on va réhabiliter Thomas. Thomas, qu'est-ce que nous pensons de Thomas ? On m'a toujours enseigné, Thomas, c'était l'incrédule de service, c'était celui qui n'avait pas cru, etc. Et puis, on va relire quand même ce moment fort dans Jean 20, versets 24 à 29, où justement, bien, Jésus va se présenter en particulier à Thomas. Jean 20, verset 24. « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. À nouveau, la même réalité spirituelle. Il se tint au milieu d'eux et il dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, dès sa première apparition, Jésus donc va montrer ses mains, ses pieds aux disciples pour leur montrer qu'il n'est pas un fantôme. Mais Thomas n'est pas là. Thomas n'est pas là. Et on connaît bien sûr l'histoire, et on accable pauvre Thomas, bien sûr, d'être un incrédule de première, etc., de première classe. Pourtant, quand même, ce matin, il y a deux remarques qu'on peut faire. La traduction que j'ai lue, je ne sais pas si c'était la même, n'est pas tout à fait conforme au texte. Le texte original dit plutôt ceci, Jésus dit à Thomas, « Ne sois pas en train de devenir incrédule. » Ne sois pas en route pour l'incrédulité, ne sois pas en cheminement pour l'incrédulité. Ce n'est pas pareil de dire ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, ça veut dire que Thomas est incrédule. Mais Jésus ne dit pas ça, il dit ne continue pas sur cette voie, ne sois pas en cheminement sur le chemin de l'incrédulité. Ça veut dire quoi ? Eh bien, pour Thomas, ça veut dire d'abord que lui a besoin d'une confirmation. Il a besoin eh bien, d'avoir une affirmation, une confirmation. Il veut être sûr de ne pas être trompé. Il veut être certain que c'est bien Jésus qui est apparu à ses disciples, à ses amis disciples. Et ainsi, il a tout simplement besoin d'une confirmation, d'une deuxième, pour lui en tout cas, la deuxième élément de preuve. Et ce matin, eh bien, on pourrait se dire aussi qu'il y a parfois dans nos vies besoin d'une confirmation. Quand Dieu nous révèle quelque chose de personnel, une promesse, sa volonté, eh bien, ce n'est pas faire preuve d'incrédulité, de dire « Seigneur, eh bien, j'aimerais bien que tu me confirmes », parce que souvent on peut être culpabilisé, mais on peut demander une confirmation de sa volonté, on peut demander un signe, on peut demander « Seigneur, écoute, merci pour ce que tu viens de me dire, merci pour ton appel, merci pour ta direction, est-ce que tu peux me confirmer ? Tu me connais ?» Vous vous rappelez de Gédéon ? Ah, Gédéon, quand même, quel appel, hein, vaillant héros, etc. Et pourtant, Gédéon demande une confirmation. Hein, c'est la toison qu'il place. Et une double confirmation, hein, avec la toison qui devient sèche, la toison qui est humide, etc. Et Dieu ne va pas, excusez-moi, se vexer, mais il va confirmer. Et ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin d'une confirmation. Demandez-la tout simplement au Seigneur. Seigneur, merci parce que pour cette direction, merci parce que tu as touché mon cœur, merci parce que il me semble que cela vient de. Est-ce que tu peux me confirmer ? Et le Seigneur le fera. Non, Thomas n'est pas un incrédule. Thomas a besoin d'une confirmation. Il ne veut pas être trompé. Et deuxième remarque, pour être certain que c'est bien Jésus qui est ressuscité et non pas un imposteur. Non pas là aussi, bien quelqu'un qui se ferait passer pour Jésus, eh bien, il va exiger, et je prononce le terme exprès ce matin, il va exiger eh bien, d'être confronté au stigmate de la croix. Il va exiger d'être confronté aux clous, aux marques des clous, à la lance qui a pété. Il va exiger cela pour que sa foi eh bien, ne soit pas trompée. Et en cela, ce matin, j'aimerais nous rappeler également que pour nous, eh bien, nous voulons être comme Thomas, on veut être exigeant pour notre foi. On ne veut pas être nourri par n'importe quoi. On ne veut pas être nourri par n'importe quel prophète ou n'importe quel enseignement sur Internet ou même parfois en live, etc. Mais on veut être comme Thomas, exigeant pour que notre foi soit nourrie à partir de l'œuvre de la croix, à partir là aussi de ce que Jésus a accompli pour nous. Soyons exigeants. On sait que dans les derniers temps, de plus en plus, eh bien, il va y avoir toutes sortes de fausses doctrines, de faux prophètes, de faux docteurs, etc., de faux frères, de fausses sœurs. On dit toujours des faux frères. Hein. Il y a des fausses sœurs aussi. Hein. Pas ici, attention, hein. J'ai jamais dit qu'il y en avait ici. Hein, mais on peut être trompé. On peut être trompé. Et s'il y a bien une exigence à demander pour notre part, eh bien, c'est d'être exigeant avec notre foi, de nourrir notre foi avec ce qui est saint. Avec ce qui vient de la parole de Dieu, avec là aussi eh bien, ce que nous dit Jésus concernant que notre foi grandisse sainement. Amen. Et Thomas, pour moi, je lui dirai quand je le verrai là-haut, Thomas n'est pas un incrédule. C'est quelqu'un qui est exigeant avec sa foi et qui ne veut pas être trompé, eh bien demande les seuls signes qui sont introuvables, c'est les stigmates de la croix. C'est ce que Christ a accompli pour lui, pour nous, sur la croix du calvaire. Amen. Alors ce matin, bien oui, nous voulons être aussi et nous laisser enseigner au travers eh bien, des marques des clous sur les mains, sur les pieds, et puis cette lance qui a percé le côté de Jésus, nous rappeler nous rappeler ce que Christ a accompli pour chacun d'entre nous. Et puis, dans ces textes, une dernière pensée pour nous, il y a le corps de Jésus, il y a ses mains, ses pieds qui sont percés, son côté là aussi également. Et puis, il y a la parole de Jésus. Il y a ce que Jésus va dire. Que va dire Jésus pour inaugurer cette quarantaine? Que peut nous dire Jésus quand nous sommes mis à part avec lui? Que peut nous dire Jésus lorsque nous prenons du temps avec lui et qu'il prend du temps avec nous? Qu'est-ce que peut nous dire Jésus bien? Il y a trois sortes de paroles, au moins dans ces textes. D'abord, il y a des paroles qui rassurent. Il y a des paroles qui rassurent. Deux fois, Jésus va leur dire « Que la paix soit avec vous ». Il va leur dire également « Pourquoi êtes-vous troublés ?» Il va leur dire « Mais finalement, avez-vous quelque chose à manger ?» Et toutes ces paroles sont là pour rassurer les disciples, pour les aider bien à ce que la fréquence cardiaque redescende, hein, que la tension, là aussi, si on avait pris la tension ou la fréquence cardiaque à ce moment-là, à mon avis, hein, serait palpitée à l'intérieur. Mais Jésus va faire redescendre ces choses-là, cette tension qui est spirituelle également, et il va rassurer les paroles. Et ce matin, il y a certainement aussi dans nos vies, et on vient, on dit parfois, hein, c'est les pasteurs qui disent ça, hein, frères et sœurs, laissez tous vos soucis à l'entrée et à la sortie, surtout, ne les reprenez pas. C'est pas mal, hein, comme... Mais en réalité, est-ce que c'est aussi vrai que cela? On peut tous venir charger, on peut préparer nos chants, on peut la semaine et puis venir les chanter de tout notre cœur et puis être quand même dans nos pensées agitées. On peut prêcher l'évangile de tout son cœur et puis perturbé par certaines situations. L'apôtre Paul le dira, le souci que me donnent toutes les églises. Oui, laisser nos soucis à l'entrée sur un porte-manteau et ne pas les reprendre à la sortie, c'est une belle image. C'est une belle image. Mais en tout cas, ce matin, même si on a franchi les portes battantes de ce lieu de culte avec quelques soucis, avec quelques pensées, Jésus nous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassure-toi, mon enfant, je sais que tu as passé cette double porte avec quelques soucis, peut-être quelques craintes, mais rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur, je suis là. Et je vais t'accompagner, et dans la quarantaine que je veux vivre avec toi, hein, désormais, cette grande quarantaine qui nous portera jusque dans l'éternité, eh bien, je suis là. Et je prends patience pour t'écouter, pour t'entendre, pour te décharger sur moi. Le psaume 138, verset 3, nous dit ceci, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. La parole de Jésus, elle est rassurante. Elle nous rassure. Quand un enfant revient de dehors, qu'il s'est écorché les genoux, etc., bien on va le rassurer. On verra après les circonstances peut-être, mais on va d'abord rassurer, c'est normal. Et Jésus, ce matin, bien nous dit bien que la paix soit avec toi. Pourquoi es-tu troublé? Explique-moi. Bien qu'il sache tout, mais explique-moi, mets des mots sur, et puis, bien, on va voir ensemble hein, ce qu'on va faire ensemble pour que ton cœur soit rassuré. Deuxième pensée pour les paroles de Jésus dans ce contexte, ce sont des paroles aussi qui enseignent. Ce sont des paroles qui enseignent, des paroles qui expliquent, des paroles qui sont nourries effectivement de la parole de Dieu. Il fallait que s'accomplisse. Va dire Jésus. Il va dire également, il est écrit. Il est dit que Jésus va leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. On est dans un monde hein, de plus en plus connecté, hyper connecté, bien sûr, avec toutes sortes d'écrans, d'applications. Hier, je voyais avec les jeunes, on n'a plus de recueil de chants avec les jeunes. Hein. Il suffit d'un téléphone portable, voilà. Et encore, j'ai bien du mal des fois à trouver mes chants, je clique partout, mais bon, les jeunes sont là, ils m'aident, ça va à peu près. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, on arrive avec nos feuilles de chant, nos cahiers de chant, etc. Bon, voilà, donc on est hyper connectés, etc. Il y a toutes sortes d'applications, il y a même des assistants virtuels. Ça, c'est le pompon, les assistants virtuels. Vous avez déjà essayé un assistant virtuel? Ah ouais, hein, on commence, alors j'ai un problème. Bon, il vous cas dans un truc, alors on ne trouve pas toujours, mais on y va, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre problème? Alors vous cliquez non, arrivez voilà. Et puis à la fin, au bout de 20 minutes, vous faites ce que vous pouvez, mais vous n'avez rien compris parce que l'assistante virtuelle ne peut rien faire pour vous. Bon, ça, c'est l'assistant virtuel que moi j'ai. Peut-être vous en avez un autre, vous me donnerez des adresses parce que les miens, ils ne fonctionnent pas très bien quand j'ai besoin. Mais on est hyper connecté, etc., etc. Et voilà. Mais finalement, avec tout ça, il y a quand même des gens qui constatent qu'on ne lit plus. On ne lit plus. Hein, on regarde les écrans, on ne lit plus. Et nos professeurs des écoles s'arrachent les cheveux quand ils en ont encore, avec tout ce que les enfants peuvent, là aussi, je sais, waouh, bon. On n'écrit plus non plus, hein, on textote, on SMS, etc., avec tout ce qu'on peut faire, etc. Et puis finalement, quelque part, on s'appauvrit. Si vous n'avez plus un GPS, lire une carte maintenant routière avec les nationales, waouh, c'est compliqué, hein. Ayez quand même toujours une carte. Parce que le jour où le réseau là-haut, le satellite tombe en panne, ça peut faire... Mais ça veut dire quoi ? On n'est plus habitué au goût de la persévérance, au goût de l'effort, à la patience, parce qu'on a tout de suite, ou on veut tout de suite, etc. Et spirituellement, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Là aussi, on évolue dans un monde qui est ainsi. Tout ça pour dire que les paroles de Jésus sont là pour nous rassurer, mais elles sont là aussi, elles sont destinées à nous enseigner, à nous faire grandir spirituellement, à devenir des disciples, à réfléchir sur la parole de Dieu, à la méditer, à la lire, à y revenir. Et tout ça fait partie de notre maturité spirituelle. Et Jésus va enseigner ici ses disciples. Il est écrit, il faut que ça complisse. Alors c'est vrai que parfois dans la Bible, il faut fouiller. Vous avez des Bibles aussi, hein. Il y a des parallèles, on cherche, etc. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Parce qu'on a besoin. Vous vous rappelez de l'exemple des Juifs de Bérée dans Actes 17, 11 ? Il est extraordinaire cet exemple, hein. C'est l'apôtre Paul qui enseigne. Bon, c'est quand même pas le premier venu, hein. Il dit que lorsqu'il vient à Bérée, eh bien, les Juifs de Bérée vont examiner. Hein, c'est pas simplement lire, c'est examiner, c'est chercher. Et chaque jour, hein, avec, etc. Je ne sais pas si tu as le passage, hein, qu'est-ce que je t'ai donné ? Acte 17, verset 11, oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, amen, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Faites-le, frères et sœurs. Faisons-le. Et puis si un jour, moi ou quelqu'un d'autre, se trompe par rapport à l'Écriture, eh bien, venez me voir, venez nous voir. On a besoin d'être mature, de ne pas, là aussi, d'être exigeant avec notre foi. En tout cas, les paroles de Jésus sont là pour rassurer, mais pour enseigner, pour expliquer également, et pour nous aider à réfléchir, à méditer la parole du Seigneur. Et puis je conclue. Les paroles de Jésus, c'est des paroles aussi qui promettent. Il y a des promesses, hein, que Jésus laisse concernant le don du Saint-Esprit, concernant cette réalité. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, la promesse du don du Saint-Esprit. » Jésus est en train de préparer pour ses disciples une autre quarantaine, une autre étape. Il ne sera plus avec eux de la même manière, mais il enverra ses disciples un autre lui-même, littéralement. Et Jésus est en train de préparer ses disciples pour cette grande quarantaine, bien sûr, hein, que le livre des Actes du Saint-Esprit nous décrit. Et ce matin, c'est une promesse, ce sont des promesses que nous voulons également saisir. Et il y a peut-être des promesses ce matin que vous avez reçues il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années qui ne sont pas encore accomplies. Faites confiance au Seigneur également. Parce que ce sont des paroles qui promettent. Et quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. En tout cas, ce matin, nous sommes tous appelés à être remplis du Saint-Esprit, de cette vie spirituelle, afin que, comme Jésus, bien nous puissions mieux le connaître, savoir qui il est, savoir qui il est. Alors, on termine par cette dernière pensée. C'est Luc, hein, qui a écrit un cher Théophile. Et je le disais aussi dernièrement, parce que j'ai trouvé là aussi quelque chose d'important pour nous. Lorsqu'il écrit à Théophile dans Luc au chapitre 1, verset 3, il dit « Excellent Théophile ». Et finalement, quand on fait le condensé des deux, ça donnerait « Cher, excellent Théophile ». C'est extraordinaire. la manière dont Luc, on a vu hein, cette humilité qui le remplissait, dont Luc considère cet ami Théophile. Il dit « Tu as un cher, excellent Théophile ». Cher, c'est bien sûr une marque d'affection. Hein. Pour Luc, ce médecin, eh bien, Théophile est quelqu'un qu'il affectionne particulièrement. Et puis, excellent, excellent, mon excellence. On vous a jamais appelé mon excellence ? Hein ? Non, pas encore. Bon, ça pourrait venir un jour. Hein. Mon excellence, c'est de la considération. Waouh, hein, mon excellence, tout de suite, ça cadre le personnage, la considération. Et puis Théophile, vous savez ce que ça veut dire, Théophile, littéralement, c'est l'ami de Dieu. Et ça parle d'identité. Ça veut dire que pour Luc, Théophile, eh bien, fait partie de la même famille. C'est un ami de Dieu. Et ainsi, eh bien, il y a cette communion, cette relation fraternelle qui existe entre Luc et Théophile. Et je me disais finalement ce matin, c'est ainsi que Jésus nous considère tous, et chacun en particulier, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de considération, et puis avec beaucoup de communion, puisqu'il nous dit ce matin pour nous, tu es un cher, excellent Théophile. C'est bien ça, hein ? Surtout pour la fête des mères, par exemple. Hein, une chère, excellente Théophile. Jésus vous considère de cette manière, vous les mamans. Et on veut honorer, bien sûr, aussi ces mamans, hein, ce matin, non seulement à travers les cadeaux que vos enfants, peut-être, vont vous faire, hein, ces merveilleux colis en pâte, hein, que vous avez peut-être reçus de l'école maternelle, ou ces dessins extraordinaires, ou autres... sous-plat, en passe à linge collé, peut-être vous avez eu aussi. Enfin, moi, je parle de ma génération maintenant. Il y a des trucs peut-être en 3D, etc. Voilà, bon, c'est peut-être beaucoup plus moderne. Hein. Mais toutes les mamans ont collectionné ça dans un coin, dans une boîte, hein, bien entendu. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais au-delà de la considération qu'un enfant peut avoir pour sa maman, eh bien, Jésus a de la considération ce matin pour chacun d'entre nous. Et il nous dit, eh bien, tu es mon cher, tu es ma chère, excellent Théophile. Il nous considère de cette manière. Et je me dis que si Jésus nous considère de cette manière ce matin, eh bien, apprenons encore à mieux le connaître, à savoir qui il est. Parce que quelqu'un qui nous considère de cette manière doit avoir toute notre attention, toute notre affection, toute notre exigence pour mieux le connaître. Amen. Et c'est ainsi que ce matin, eh bien, Jésus, pendant cette quarantaine avec ses disciples, et cette quarantaine qu'il a inaugurée avec nous depuis notre conversion par le Saint-Esprit, eh bien, veut nous aider à mieux le connaître. Amen. Te ressembler, Jésus, hein, c'est mon espoir suprême. En tout cas, qu'il en soit ainsi, à travers son corps qui nous parle de sa résurrection, à travers de ses mains, de ses pieds, eh bien, qui nous parle de son affection, et puis ce matin pour nous de ses paroles qui sont rassurantes, qui sont enseignantes et qui sont des promesses pour chacun d'entre nous. Amen. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te rendre grâce et te bénir pour ta personne. C'est vrai, ce que nous aspirons finalement quand on y réfléchit le plus, bien sûr, c'est connaître ta parole, bien sûr, c'est de grandir, mais finalement, le fondement de tout, c'est de te connaître davantage. Savoir, Seigneur, qui tu es, quelles sont tes paroles, quel est ton enseignement, quelles sont tes promesses, quel est ton avenir, quels sont tes dons, qui tu es. Seigneur, aide-moi ce matin encore à te considérer de cette manière. Merci en tout cas pour la considération, pour l'affection, pour la communion que tu veux établir avec chacun d'entre nous. Nous sommes tellement précieux à tes yeux ce matin que tu as donné ta vie pour nous. Alors oui, nous voulons te dire, mon cher Jésus, en réponse à ta considération, tu es notre cher Jésus et nous voulons mieux te connaître. Merci, merci pour ta parole, merci pour le don du Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, ce n'était pas prévu, mais peut-être qu'on pourrait chanter ensemble, même si on n'a pas de musique, bien ce chant avant la Sainte-Cène, « Te ressembler, Jésus ». Hein, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, tout comme toi. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut avoir la musique, oui, d'accord. Comme ça, on pourra peut-être, pendant ce temps, bien, demander. pourrais demander à Manette hein, de venir, peut-être à notre frère Étienne aussi, et puis à notre sœur Yvonne. Voilà, on veut honorer des mamans, des mamies même, et la fête des grands-mères, c'est encore après. Hein. Il y en a qui sont privilégiés quand même. Hein, voilà. Mais en tout cas, hein, si nos frères et sœurs veulent s'avancer pendant qu'on chante ce chant ensemble comme une action de grâce, une reconnaissance, on a les paroles. Super, de ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Alors, on est bien d'accord ce matin que ce n'est pas par nos efforts qu'on va ressembler à Jésus. Hein. On est bien d'accord, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, mais quelque part quand même, il y a cette prière, cette motivation. Seigneur, voilà, je veux te ressembler. Et le Saint-Esprit, on chante ce chant.